êtes toujours avec nous sur Bac FM, nous sommes en début d'après-midi et il fait un temps plutôt chouette pour lire à Nevers. Demain aura lieu à la Maison de la Presse de Nevers, place Maurice Ravel, une rencontre avec l'auteur Mathieu Simonet qui, à l'occasion de son livre Le Grain de Beauté, paru le 6 janvier dernier aux éditions Philippe Ray. Bonjour Mathieu Simonet.
Bonjour Maxime.
Vous êtes avocat et écrivain. Dans votre 8e ouvrage, Le Grain de Beauté, vous racontez de façon autobiographique les années suivant la mort de votre mari Benoît Braillet, connu entre autres pour être le créateur du festival Fnac Live. Merci beaucoup, Monsieur Simonet, d'être avec nous sur Bac FM.
Merci beaucoup de me recevoir.
J'ai lu avec attention votre livre et la première question que je voulais vous poser sur cette interview, c'est la suivante. Comment allez-vous ?
Eh bien, je vais bien, sachant que, merci de me poser cette question, je dis toujours que j'ai le muscle du bonheur, donc j'ai du mal à être malheureux, même quand il m'arrive des choses tristes, comme il en arrive à beaucoup. Et puis le deuxième élément, c'est que moi j'écris toujours sur des sujets très intimes, sur lesquels j'ai l'impression d'avoir eu un certain recul, c'est-à-dire j'attends toujours un certain temps pour écrire, pour pouvoir être justement, pour avoir une espèce de distance. Donc finalement, quand j'ai commencé à écrire le livre, j'allais déjà beaucoup, beaucoup mieux. Et puis aujourd'hui, j'ai un nouveau compagnon. Et une fois que j'ai dit ça, bien évidemment que les choses sont toujours plus complexes et que à la fois je vais bien et à la fois, bien sûr, il y a toujours une tristesse intime qui reste liée à la mort de Benoît. Mais donc oui, c'est une réponse très longue pour vous dire que je vais bien et que je dis souvent que j'ai le muscle du bonheur.
Il y a deux moments dans un livre, le moment où on l'écrit et le moment où il sort. Est-ce que cet ouvrage, ces rencontres avec vos lecteurs et parler un peu du livre dans les médias, c'est aussi une façon de continuer le travail du livre, hein, c'est-à-dire vivre avec les morts, pour reprendre votre expression ?
Oui, je pense que déjà Benoît ne voulait pas que je parle de lui dans mes livres, et donc j'ai écrit plusieurs livres dans lesquels je ne parlais pas de lui, et il a changé d'avis juste avant de mourir parce qu'il avait vu un film, un dessin animé qui s'appelle Coco, qui est inspiré d'une légende mexicaine qui explique qu'on meurt vraiment que quand plus personne ne se souvient de nous. Et donc c'est là où il a changé d'avis et qu'il m'a dit « j'aimerais que tu écrives sur moi ». Et donc très concrètement, présenter ce livre, rencontrer des lectrices, des lecteurs qui me parlent de Benoît, ou vous parlez de Benoît, eh bien quelque part, c'est faire en sorte que Benoît reste, Benoît n'est pas tout à fait mort, puisque comme dans le dessin animé Coco, on continue de parler à lui, de penser à lui. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup de lectrices et lecteurs qui viennent me voir et qui me disent qu'ils sont endeuillés. Je crois beaucoup à l'idée de la communauté des endeuillés et qu'on ait perdu un enfant, un parent, un amoureux, un ami, un cousin. On a une histoire singulière et beaucoup de personnes me disent qu'en lisant mon livre, ils ont l'impression que ça parle de leur propre histoire. Et c'est un de mes enjeux. J'avais très envie de laisser ce que j'appelle des blancs dans l'écriture, c'est-à-dire de laisser des failles pour que le lecteur puisse y projeter sa propre histoire. Et là, très récemment, il y a une femme qui, je crois, a 85 ans, qui est veuve, qui a perdu son mari, et ça m'a touché. Elle m'a dit qu'elle avait eu l'impression de vivre de lire son histoire, alors même que, sur les faits, nos histoires sont très différentes. Et donc, oui, ça m'apporte beaucoup, toutes ces rencontres. Et donc, je suis ravi demain d'être à Nevers pour présenter ce livre.
Le livre s'ouvre sur un geste très ancien. Vous vous mettez à genoux pour prier juste après la mort de votre mari. Vous précisez que vous dites ne plus être croyant. Est-ce que le deuil fait remonter en nous des gestes, des langages, des réflexes plus anciens que nos propres convictions, je dirais, spirituelles ?
Oui, je pense que vous avez raison sur le fait que le deuil, ça nous ramène de manière presque animale à des choses instinctives. Et c'est pas notre cerveau qui nous guide, ce sont à mon avis des rituels qui viennent peut-être de l'enfance ou qui viennent peut-être même de plus loin. Moi, j'ai l'impression que quand on est endeuillé, on redevient un peu comme un enfant. C'est-à-dire que les enfants sont émerveillés par certaines choses, ils vont être émerveillés par une fleur, par une pierre, par des choses que les adultes ne voient plus. Et je pense que les endeuillés ont une capacité à voir des choses qu'on ne voyait plus, soit parce qu'ils retrouvent un regard d'enfant, soit parce qu'ils puisent dans une mémoire ancestrale. Et on n'est pas très loin de la spiritualité ou de la religion. Moi, quelque part, je ne suis plus croyant, mais je me sens connecté à une forme de spiritualité à travers le deuil, parce que tout d'un coup, il y a des choses un peu magiques qui nous apparaissent, des signes, des coïncidences, des synchronicités, des choses qui relèvent pas du surnaturel, mais qui relèvent d'une capacité à s'émerveiller, à être attentif à ce qui nous entoure. Et donc les rituels, c'est à la fois quelque chose de très très concret et en même temps quelque chose de très immatériel. Et c'est ce qui en fait toute la beauté, toute la force. Avec peut-être une petite réserve, c'est qu'à un moment donné, tous ces rites, ce rituel qui, à mon avis, est extrêmement important et qui, eh bien, peut, dans un premier temps, nous sauver, nous encercler, nous soutenir. Et dans un deuxième temps, on peut se sentir enfermé on peut se sentir enfermé dans ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Et c'est pour ça que je milite à travers ce livre pour la liberté du deuil. Chacun fait comme il peut, comme il veut. Et c'est extrêmement important, notamment passer la première année du deuil, parce que très très vite, on va nous dire, il faudrait peut-être passer à autre chose, ou au contraire, tu es passé un peu trop vite à autre chose. Et on reçoit beaucoup d'injonctions contradictoires, et tout l'enjeu des endeuillés, c'est de trouver, à mon avis, un équilibre entre la vie et la mort, entre les vivants et les morts, ne pas oublier ni les vivants ni les morts, et chacun doit trouver sa trajectoire. C'est vraiment un travail comme un travail d'équilibriste. Et oui, je trouve ça très beau ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que ça nous ramène sur des choses peut-être très anciennes, qui nous ramènent sur des gestes des gestes anciens. Et en écrivant cette première scène où je raconte effectivement que je me mets à genoux et que je me mets à prier alors que je suis plus croyant devant le cadavre de Benoît, vous avez raison, il y a quelque chose de ça ramène à quelque chose de très ancien qui m'a dépassé et qui dépasse sans doute beaucoup d'endeuillés.
Je suis assez fasciné par ce rapport au deuil. Il y a plusieurs réactions possibles. Des gens prennent la chose de façon très terre-à-terre, d'autres se tournent vers les religions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, c'est le cas de le dire. Et parfois d'autres s'intéressent aussi au paranormal et à ce monde-là. C'est une question un peu personnelle que je voulais vous poser, mais c'est quoi, vous, votre rapport à l'au-delà ?
Eh bien, moi, j'étais très croyant quand j'étais enfant. J'étais enfant de cœur. La religion a une importance très importante pour moi. Et puis, celui qui m'a appris à écrire, c'est mon père. Et mon père m'a dit que j'étais un écrivain quand j'avais 5 ans, alors que je ne savais pas écrire. Et mon père est quelqu'un de très croyant, pour qui la religion est très importante. Et il est à la fois catholique, mais aussi il croit beaucoup en l'islam, il croit beaucoup en plein de religions, et dans le bouddhisme, et donc il croit beaucoup au surnaturel. Et donc je pense que pour moi, l'écriture et le surnaturel, c'est très lié à mon père, et ça a été quelque chose de très structurant dans ma vie et dans mon écriture. Aujourd'hui, pour plein de raisons, je ne crois plus en l'au-delà. Néanmoins, je crois en quelque chose qui est peut-être pas si loin que l'au-delà. Je crois que les morts continuent de nous habiter dans notre esprit, mais aussi de manière très concrète. Je suis sûr. Moi, je suis fasciné par le fait qu'aujourd'hui, depuis la mort de Benoît, j'ai des gestes de Benoît, j'ai des intonations de Benoît. C'est comme si les morts s'incorporaient en nous d'une certaine manière, et je suis sûr que la physique pourrait je me trompe peut-être, mais le démontrer. Je suis sûr qu'il y a matériellement de l'au-delà en nous, tout comme on sait que l'eau, c'est assez fascinant. De ce que je comprends, on a la même capacité d'eau, la même quantité d'eau depuis des millénaires et des millénaires, et ça passe par les rivières, par les nuages et dans les corps des humains. Donc je crois que l'au-delà, c'est une espèce de matière qui nous traverse tous.
Très tôt, vous écrivez que vous allez apprendre à, je cite, « vivre avec vos morts ». Ce petit mot « avec » m'a semblé décisif, m'a beaucoup marqué, à vrai dire. Vous pourriez choisir d'autres mots, « après », « sans », « malgré », mais vous avez choisi « avec vos morts ». Est-ce que vous vivez encore aujourd'hui avec vos morts ?
Oui, en tout cas, aujourd'hui, j'ai deux morts qui m'accompagnent, ma mère et Benoît. Et je pense que je pense à eux tous les jours. Donc, ils m'accompagnent très concrètement, de manière très concrète, puisque je pense à eux. Et puis le deuxième élément, c'est que j'ai totalement conscience de... Moi, je m'intéresse beaucoup à la question de la théorie de l'effet papillon. Qu'est-ce qui fait qu'une chose va en entraîner une autre? Et j'ai tout à fait conscience que ce que je fais aujourd'hui dépend, par exemple, beaucoup de Benoît. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis... là, je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler parce que Benoît. Donc, Benoît a un impact très concret sur mon quotidien, sur ce que je fais au quotidien. Et puis, je me rends compte que... Oui, j'ai l'impression que les morts nous accompagnent et gèrent presque notre agenda. Et tout l'enjeu, c'est de ne pas oublier les vivants. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un nouveau compagnon qui s'appelle David. Et bien sûr que Benoît prend beaucoup, beaucoup de place, notamment avec ce livre. Et il faut à la fois laisser cette place à Benoît et il faut laisser de la place à David et aux vivants. Donc, il faut. Je pense que c'est un peu comme quand on a deux passions dans la vie et pas qu'on adore travailler, qu'on adore sa famille. Eh bien, il y a un moment donné où notre famille va nous dire tu travailles trop, et puis de temps en temps notre travail va nous dire tu prends trop de vacances. Il faut que tu reviennes. Donc, je pense qu'on est toujours dans un trop-plein et on est peut-être sur un trop-plein de morts et de vivants. Et donc oui, moi j'ai l'impression qu'on vit avec nos morts et pas après nos morts ou pas. Sous nos morts, il y a des cultures dans lesquelles les morts sont totalement imbriqués. En Occident, la mort est un peu niée ou cachée. Et je crois qu'il faut trouver une façon sereine de vivre avec les vivants et les morts.
Je trouve qu'il y a quelque chose de courageux dans ce que vous faites souvent. Quand on aborde la question du deuil dans la culture populaire, vous citiez Coco tout à l'heure, c'est pour citer la question de l'oubli, de comment on gère une potentielle dépression ou non. Et là, vous parlez aussi de l'après, rencontrer quelqu'un d'autre. Est-ce que c'était difficile pour vous de parler de cet après-deuil quelque part?
Alors, quand j'ai écrit, c'était pas difficile parce que j'avais, je pense, dépassé certaines choses. Mais là où ça a été difficile, ça a été, par exemple, je sais que la première fois que j'ai dû dire à la famille de Benoît ou à des amis de Benoît que j'avais rencontré quelqu'un, j'avais envie de pleurer. Je savais bien qu'ils voulaient mon bien et qu'ils étaient très heureux que je puisse rencontrer quelqu'un d'autre. Mais j'avais l'impression de salir la mémoire de Benoît. J'avais l'impression de, je ressentais une culpabilité énorme. Et je pense que quand on est endeuillé, on est dans une double culpabilité. On est dans une culpabilité d'aller vers la vie, d'aller vers une nouvelle vie. Et on est dans la culpabilité aussi de rester dans le morbide, de rester vers les morts. Qu'on soit accroché à la tombe de la personne qu'on a aimée ou qu'on soit dans les bras d'un autre amoureux, dans les deux cas, on a l'impression de mal faire. Et moi, j'ai l'impression que cette culpabilité, elle fait partie du processus du deuil. Et c'est important d'en avoir conscience parce que ça permet de se dire que c'est normal, c'est pas grave, et qu'il faut juste faire le dos rond et traverser la tempête. Et donc oui, au début, l'écrire, ça n'a pas été difficile pour moi parce que quand je l'ai écrit, j'avais l'impression d'avoir dépassé un certain nombre de choses. Mais oui, en tout cas, la première année, les deux premières années, parler de l'après-Benoît, c'était très, très culpabilisant. Et ne parler que de Benoît, c'était aussi très culpabilisant.
Est-ce que vous la ressentez, cette pression culturelle, sociétale autour du deuil? Fais ton deuil comme ci, pas comme ça va été trop vite, ça a été pas assez vite. À l'instant, vous parliez de culpabilité. Est-ce que dans nos sociétés européennes, occidentales, on met trop de pression sur les gens qui font un deuil?
Oui, et je pense que cette pression, elle part d'une bonne intention, c'est-à-dire on a envie d'aider les endeuillés. Et je crois que pour les endeuillés, c'est extrêmement important d'avoir conscience qu'ils doivent arracher la liberté du deuil, ils doivent s'en emparer et ils doivent comprendre que, quel que soit, vous disiez tout à l'heure qu'il y a plein de religions, de paranormal, plein de façons ou des manières très très matérielles de gérer le deuil, chacun fait comme il veut et chacun fait comme il peut et chacun doit avoir conscience qu'il suit le bon itinéraire. Et il va y avoir autour de nous plein de gens qui vont nous dire il faut faire ceci, il faut faire cela, qui partent de bonnes intentions. Et je pense que les gens qui sont autour des endeuillés, le conseil à donner aux gens qui sont autour, c'est de dire qu'il faut laisser faire les gens comme ils le souhaitent, parce qu'on fait toujours des choses un peu étranges lorsqu'on est endeuillé, et ces choses étranges, à mon avis, elles sont essentielles pour les endeuillés. Et donc, il ne faut pas avoir honte des rituels concrets ou qu'on ne respecte pas, ou si on est monomaniaque sur un élément administratif, eh bien, il faut le faire. Si on a envie de garder les vêtements de son amoureux, il faut le faire. Si on a envie de les jeter à la poubelle, il faut le faire. Enfin,
S'écouter.
il faut s'écouter et laisser cette liberté du deuil.
Alors, ce qui frappe justement, c'est que dans votre livre, on ne se contente pas de parler que de chagrin. Ça devient aussi une sorte d'enquête, hein, j'ose le terme, vous investiguez sur la vie médicale de Benoît. À quel moment la douleur réclame-t-elle une méthode?
C'est une bonne question. Je pense que quand on est dans la douleur, on est dans une forme de chaos, on est totalement perdu. Et la méthode, elle permet finalement de tenir la main à quelque chose. Et à partir du moment où on a une méthode, eh bien, sans réfléchir, c'est comme si on est traumatisé à la suite d'un accident et on ne sait plus par où ce qu'il faut faire. Eh bien, c'est un peu comme une voix maternelle ou une voix paternelle qui nous dit, écoute, tu vas t'asseoir. Tu vas faire ceci, tu vas boire un verre d'eau. Donc la méthode, effectivement, et j'y avais pas pensé avant d'écouter votre question, la méthode, je pense, est un antidote au chagrin extrêmement important. Mais cette méthode, à un moment donné, elle peut nous enfermer si elle nous impose d'aller dans une direction vers laquelle on n'a pas envie d'aller. Et l'idée de l'enquête, c'est que je me disais, quand on est endeuillé, on peut avoir envie de ressasser le passé, de regarder des films, de refaire le film de ce qu'on a vécu. Et moi, j'avais envie de non pas tourner mon regard vers le passé, mais vers le futur. Je me suis dit, c'est un peu comme si j'avais regardé une série télévisée que j'avais adorée, et ça y est, le réalisateur, les acteurs sont plus là, donc on ne pourra pas avoir de nouvelles saisons. Et tout ce que je peux faire, c'est revoir les anciens épisodes. Et je me suis dit, bah non, moi j'ai envie d'avoir des nouveaux épisodes. Et je me suis dit, avec Benoît, j'ai envie d'avoir des nouveaux souvenirs avec lui. Et pour cela, il suffit de mener une enquête sur tout ce que je connaissais pas de sa vie. Et l'enjeu, c'était pas de mener une enquête pour découvrir des zones d'ombre de Benoît. C'était mener une enquête parce qu'on connaît jamais totalement quelqu'un et qu'il y a toujours des gens qui l'ont connu qu'on n'a pas encore interrogé, et j'ai eu l'impression d'avoir comme une saison bonus dans une série que j'adore, donc là, finalement, des histoires en plus autour de Benoît. Et comme ça m'a permis d'enquêter pour savoir effectivement pourquoi il s'appelait Benoît, ce qu'il n'a jamais su, ou d'enquêter sur son dossier médical qu'il a tenu pendant un quart de siècle. Et donc à la fois, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et mon enjeu, c'était de donner envie à des lecteurs et des lectrices de faire la même chose par rapport à leur endeuillé, de leur dire, enquêtez sur vos morts et vous allez, et c'est une manière très très douce et très joyeuse et très, en tout cas, une des manières très joyeuses de vivre avec ses morts.
À vous entendre, et vous m'arrêtez si je me trompe, j'ai presque l'impression que vous vous méfiez de la nostalgie.
Alors, tout est paradoxal puisque moi, souvent, je dis que je suis très nostalgique. J'adore l'enfance. En fait, je pense que c'est pas que je me méfie de la nostalgie. Je me méfie de la nostalgie seule. C'est un peu comme dans un plat où il y aurait qu'un seul aliment. Je crois que la nostalgie, c'est quelque chose d'important, mais ça doit être associé à l'anti-nostalgie qui serait de regarder le futur et d'enquêter dans le futur. En fait, ce que j'aime, c'est relier la nostalgie et l'enquête. Et de trouver un assemblage entre les deux. C'est comme si je milite pour qu'on fasse un plat avec les deux.
Vous écrivez qu'il y a dans un dossier médical la possibilité d'un récit et vous dites ne pas vouloir bâtir une accusation mais faire surgir une histoire. Comment passe-t-on de documents techniques, presque hostiles, hein, les joies de documents médicaux français, à une forme de littérature?
Eh bien, en fait, je pense que quand on regarde un document technique, on peut être totalement englouti par des termes qu'on a du mal à comprendre. Et lorsqu'on commence à essayer de trouver un fil rouge dans ce document technique, eh bien, ce fil rouge, ça devient une histoire et tout d'un coup, on devient maître de ce document technique. Et moi, je crois, un peu comme ce que vous évoquiez sur la méthode tout à l'heure, je crois que dans tout ce qui nous arrive, et notamment dans les choses soit très techniques, un peu incompréhensibles, soit dans les choses très douloureuses, on a toujours la possibilité de trouver un fil rouge, de trouver une histoire. Et quand on se met à chercher ce fil rouge, eh bien, tout d'un coup, c'est comme une colonne vertébrale qui apparaît. Et ça va pas nous faire disparaître le chagrin, mais ça va nous aider à tenir mieux debout. Et je crois qu'il faut pousser tout le monde à se sentir légitime, à chercher des histoires, à raconter des histoires, qu'on soit écrivain ou pas, parce que je crois que ça nous permet de tenir debout et que face à des documents administratifs illisibles qui nous écrasent, ou à un document médical qu'on ne comprend pas, ou face à une douleur extrême, à partir du moment où on est dans la démarche de chercher un fil rouge, de raconter une histoire, eh bien on reprend le pouvoir et on apporte un peu de lumière.
En lisant le dossier médical, vous redécouvrez le corps de Benoît autrement, ses cicatrices, ses zones cachées, si j'ose dire. Est-il difficile, comment ça se passe émotionnellement, devrais-je dire, d'écrire sur un corps que vous avez très bien connu?
Mais je sais que ça, je m'y attendais pas du tout en regardant le dossier médical de Benoît, que j'allais découvrir des choses sur son corps. Par exemple, il voulait jamais me donner son poids, et tout d'un coup, grâce à son dossier médical, j'avais son poids à plusieurs moments de sa vie. Et effectivement, ce qui m'a bouleversé, c'est de découvrir qu'il y avait des mini grains de beauté que je n'avais jamais vus sur son corps. Et tout d'un coup, eh ben, j'avais l'impression, un peu comme l'idée d'avoir une histoire en plus, un bonus de vie avec Benoît, tout d'un coup, on m'offrait un bonus de Benoît, c'est-à-dire que c'est comme s'il devenait plus vivant en étant mort, parce que en étant mort, on me permettait d'accéder à son dossier médical et on me permettait de voir des zones de son corps que je n'avais jamais vues. Et je sais que ça m'a énormément ému et bouleversé. C'était des moments où j'étais à la fois très joyeux et en larmes. C'était des moments effectivement totalement bouleversants pour moi.
Le titre de votre livre, je le trouve magnifique puisqu'il part de quelque chose d'infime, un grain de beauté. Comment cette minuscule particularité devient le centre d'un corps, d'abord, d'une angoisse et puis d'un livre entier?
Mais en fait, quand j'ai rencontré Benoît, on avait une trentaine d'années tous les deux, on s'est rencontrés dans une boîte de nuit et à la suite de la première nuit qu'on a passée ensemble, on a tout de suite senti qu'il se passait quelque chose d'important entre nous et on a vécu ensuite 15 ans ensemble. Et donc le matin de la première nuit, il m'a dit, écoute, faut que je te dise, à 20 ans, on a découvert un grain de beauté sur le gland de mon sexe. C'est très rare, il y a très 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 peu de gens. D'habitude, il n'y a jamais un grain de beauté sur le gland du sexe. Et il m'a expliqué qu'il en a eu très honte, et si bien qu'il n'a pas osé en parler, il n'a pas osé avoir de vie sexuelle pendant longtemps, il n'a pas osé le montrer à un médecin, et le grain de beauté a grossi, 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 jusqu'à recouvrir l'ensemble de son gland. Et c'est là où, 5 ans plus tard, à l'âge de 25 ans, il a vu un médecin qui lui a dit, il va falloir vous amputer. Et là, il s'est dit, bah, moi, je veux pas, je préfère mourir jeune plutôt que d'être amputé. Et donc ce grain de beauté, dès le premier matin de notre rencontre, eh ben en fait, il a eu une importance énorme parce que tout d'un coup, il m'apprenait qu'il allait peut-être mourir. Et puis surtout, moi, dès qu'il m'a raconté cette histoire, je suis peut-être tombé amoureux de lui grâce à ce grain de beauté. Je me suis dit, mais je l'ai trouvé hyper viril de dire à des médecins, eh bien, vous m'amputerez pas, je garderai mon sexe, même si cela me fera peut-être mourir plus jeune. Et il se trouve que paradoxalement, les médecins m'ont expliqué après que parce qu'il ne s'est pas fait amputer, et donc il a obtenu des greffes expérimentales, parce qu'il a fait ce choix un peu qui n'était pas celui préconisé par le corps médical, eh ben il a vécu plus longtemps qu'il n'aurait pu vivre. C'est-à-dire que tous ceux qui ont eu le même problème que lui et qui se sont fait amputer sont morts avant lui. Et donc le grain de beauté, outre le fait que c'est une expression que je trouve très belle et que, comme vous le dites, c'est un tout petit élément. Comme la théorie de l'effet papillon, qui peut avoir un impact très fort, ça a été dès le premier, pour notre premier déjeuner, c'était au cœur de notre histoire.
Il y a dans ce livre une phrase très forte sur votre mariage. Vous dites que c'était d'abord un geste politique en faisant référence à cette date importante du 17 mai 2013 où la loi du mariage pour tous portée par la garde des Sceaux de l'époque, Christiane Taubira, est passée. Et en même temps, le livre montre toute l'épaisseur affective et intime de ce mot important, le mot mari. Pourquoi ce mot a-t-il été pour vous à la fois un mot d'amour et un mot politique?
Alors moi, il se trouve que j'ai été avocat et j'avais fait mon mémoire de l'école d'avocat sur les couples homosexuels en droit international privé dans les années 90, à une époque où c'était très mal vu de travailler là-dessus. Et j'ai failli ne pas être avocat à cause de ça. C'est-à-dire que quand j'ai soutenu mon mémoire, on m'a expliqué que c'était scandaleux de travailler sur ce sujet. Et sur les 1000 élèves de l'école d'avocat, j'ai eu la plus mauvaise note, j'ai eu 4 sur 20. Et donc c'est vraiment cette question du statut du couple homosexuel, c'est vraiment quelque chose qui me suit depuis toujours. Et j'ai ensuite beaucoup travaillé sur cette question sur cette question du droit des homosexuels. Mais paradoxalement, je me rendais bien compte que le mot mari, je trouvais qu'il avait une connotation négative, c'est-à-dire j'avais l'impression je me reconnaissais pas dans ce mot mari. Et donc c'est pour ça que quand je me suis marié, à la fois c'était quelque chose en tant que juriste qui m'intéressait, mais affectivement, il y avait quelque chose, il y avait comme une dissonance, il y avait une dissonance avec ce mot mari. Et donc c'est en ça que je dis que je me suis marié pour des raisons politiques. Je me serais sans doute pas marié si j'avais été hétérosexuel. Et paradoxalement, j'ai découvert à la mort de Benoît que, un, avec le temps, le mot mari, je me le suis approprié, mais maintenant, c'est un mot que j'aime. Et comme quoi, l'habitude, c'est un élément qui est extrêmement important. Et puis, deuxièmement, j'ai compris qu'en étant marié, eh ben, ça m'avait ouvert des portes. C'est-à-dire, je pense que toute la période d'hospitalisation de Benoît, qui a été assez courte, et la période en soins palliatifs, le fait de pouvoir dire que j'étais marié, je me sentais légitime à poser des questions au médecin, je me sentais légitime à. En fait, j'avais une place officielle dans l'hôpital parce que j'étais le mari. Et c'est là où je me suis dit, si j'avais été juste le compagnon, je me serais senti moins légitime. Et donc pour moi, ça a été En fait, j'ai l'impression d'être devenu pleinement le mari de Benoît au moment où il était en train de décéder, par cette place que ce mot m'offrait à l'hôpital. Et puis là où ça a été encore plus important, ça a été à son décès, puisqu'il voulait entrer dans notre caveau familial au Père Lachaise, et un de mes oncles s'y opposait. Pour des raisons homophobes, il a contacté un avocat, un notaire, un huissier de justice. Il ne voulait absolument pas que Benoît entre dans le caveau familial, en expliquant que pour lui, ça aurait été l'entrée de Benoît dans le caveau serait une manière de souiller le caveau familial. Et c'est là où je me suis intéressé à la question du droit des caveaux, des cimetières, et j'ai appris que on est prioritaire dans un caveau familial lorsqu'on est en ligne directe, mais les maris et les femmes sont également prioritaires. Donc tout d'un coup, parce que j'étais marié avec Benoît, je pouvais imposer que Benoît entre dans le caveau familial malgré l'opposition de mon oncle. Alors pour plein de raisons, j'ai finalement décidé que Benoît n'irait pas dans le caveau familial, mais c'est là où j'ai découvert qu'être marié avec Benoît me permettait d'honorer sa mémoire et de faire en sorte qu'il puisse entrer dans un caveau familial. Donc tout d'un coup, le mot mari, notamment avant la mort de Benoît, quelques mois avant sa mort, quelques semaines avant sa mort et après sa mort, a eu une importance énorme. Et devenir son héritier, c'est devenu quelque chose de. Tout comme le grain de beauté, le mot mari a eu un rôle essentiel et énorme. Et je pense que je n'aurais pas été marié avec Benoît, j'irais beaucoup. Vous me demandiez au début comment j'allais. Je pense que j'irais très très mal si j'avais pas été marié avec Benoît. Le fait d'être marié avec lui m'a énormément aidé émotionnellement, institutionnellement. Et donc je suis très 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 heureux et très fier. Et d'ailleurs, c'est un problème, c'est qu'aujourd'hui, je me vois pas du tout me marier ou me pacser avec mon nouveau compagnon parce que je me sens. C'est peut-être j'ai l'impression qu'en étant marié, en disant que je suis veuf, je garde un lien fort avec Benoît. Et peut-être que c'est un lien qu'il faudra que je coupe un jour, j'en sais rien. En tout cas, c'est un lien qui aujourd'hui pour moi est, quand je dis je vis avec mes morts, je vis aussi avec mes morts grâce à ce mot mari.
Vous avez encore votre alliance?
Non, alors par contre, une des conditions, c'est que quand on s'est marié, c'est que je ne voulais pas d'alliance, donc j'en ai jamais eu.
Oui,
Mais
vous le racontez dans le livre.
un lecteur m'a écrit il y a une semaine ou 15 jours. Il a lu Le Grain de Beauté, donc c'est un veuf qui était avec un homme, et il m'a dit qu'après avoir lu Le Grain de Beauté, il a enlevé son alliance et il m'a dit, je me sens prêt à vivre une nouvelle vie et sans oublier mon amoureux. Donc moi, je n'ai jamais eu d'alliance, mais je pense à cet homme qui, et ça m'a énormément touché, a enlevé son alliance après avoir lu Le Grain de Beauté.
Il me reste deux petites questions et après je vous libère, c'est promis. Vous refusez les clichés sur le deuil et vous prenez vos distances avec le modèle des fameuses cinq étapes, marchandage, etc., etc. Vous allez jusqu'à proposer vos propres saisons, microfolie, hibernation, mélancolie. Pourquoi était-ce important pour vous de reprendre la main sur le récit même du deuil?
Parce que je me suis rendu compte en découvrant le cycle du deuil qu'à la fois j'ai l'impression que le cycle du deuil et le deuil c'est quelque chose qui peut faire du bien, qui peut structurer, et en même temps il y a plein de personnes qui trouvent que c'est horrible, que c'est culpabilisant ou que c'est stupide. Et donc j'ai voulu revenir à l'origine et me dire mais d'où vient le cycle du deuil? Et c'est là où j'ai découvert que Elisabeth Kübler-Ross, qui est à l'origine de ce cycle du deuil, elle n'avait pas travaillé sur le deuil, mais sur la fin de vie. Elle avait interrogé 300 personnes pour savoir qu'est-ce qu'ils vivaient en fin de vie, et elle en a fait le cycle de la fin de vie. Et pour des raisons un peu mystérieuses, ce cycle de la fin de vie a été recustomisé en cycle du deuil et a eu un énorme succès en tant que cycle du deuil. Et donc, je me suis demandé, mais pourquoi ça a eu du succès et pourquoi je ne me reconnais pas dans le cycle du deuil? Et c'est là où je me suis dit que quand on est dans un deuil, on a besoin finalement de voir peut-être le bout du tunnel, on a besoin d'avoir un itinéraire pour se dire qu'on va peut-être un jour s'en sortir. Et c'est en ça que ça nous fait du bien, le cycle du deuil. Et c'est là où je me suis dit, mais le plus important, ça n'est pas l'itinéraire par lequel on passerait, ce ne sont pas les étapes qui sont mentionnées dans ce cycle du deuil, c'est le simple fait d'imaginer un itinéraire. Et donc c'est là où je me suis dit, bah moi je vais me réinventer mon itinéraire et je vais me poser la question par quelles étapes je suis passé. Et j'ai eu envie à la fin du livre de faire un petit tableau où à la fin on retrouve les 5 étapes officielles du cycle du deuil, on retrouve mes 5 étapes, mon expérience, et il y a également un tableau vierge dans lequel le lecteur, la lectrice peut lui-même se poser la question par quelles étapes je suis passé. Et j'espère avoir à un moment donné, il y a mon mail à la fin du livre, j'espère que 300 lecteurs et lectrices vont me raconter, me dire leur cycle du deuil pour peut-être réimaginer un schéma du cycle du deuil pour faire un peu ce que Elisabeth Kübler-Ross avait fait avec 300 personnes en fin de vie. Moi, j'aimerais refaire la même chose avec 300 endeuillés.
Et peut-être que vous aurez le temps de rendre votre tableau demain à la librairie, cher auditeur, chère auditrice.
Mais oui, je serais ravi, ravi, ravi.
À la fin de votre livre, et je ne spoilerai rien, mais on comprend que votre geste n'est pas d'oublier Benoît, mais finalement de l'assimiler, presque au sens organique du terme. Est-ce que l'écriture, pour vous, sert moins à faire son deuil qu'à donner une nouvelle forme de présence à l'absent?
Oui, moi je pense que vous avez tout à fait raison, que pour moi l'écriture, c'est donner une présence à Benoît. Et finalement, c'est faire ce qu'on s'était dit par rapport à ce film Coco, le film Coco qui dit qui est inspiré d'une légende mexicaine et qui dit qu'on ne meurt vraiment que quand plus personne ne se souvient de nous. Et puis quelque chose. Et puis il se trouve que Benoît, à sa mort, m'a autorisé d'écrire sur lui et m'a donné accès à toutes ses archives. Et il y a une archive qui était codée, qui était son journal qu'il a tenu quand on s'est rencontrés. Et comme il m'avait dit que j'avais carte blanche, j'ai demandé à un hacker de trouver le moyen d'ouvrir ce journal. Et dans son journal, il raconte quelque chose que j'avais oublié. Il raconte une conversation téléphonique qu'on a eue au début de notre rencontre, qui est une conversation téléphonique qui a duré toute une nuit pendant 5 heures. Et lors de cette rencontre, lors de cet échange, on s'est fait une promesse, on s'est dit qu'un jour, on écrirait un livre ensemble. Et pour moi, Le Grain de Beauté, c'est un livre que j'ai écrit avec Benoît parce que je mets des extraits de textes de Benoît. Et donc, c'est une manière de faire vivre Benoît autrement. C'est comme si c'était presque notre enfant, ce Grain de Beauté. Et l'écriture, c'est peut-être créer un enfant virtuel.
Merci infiniment, Mathieu Simonet, d'avoir été avec nous sur Bac FM.
Merci à vous pour cette interview très, très douce et très, qui m'a beaucoup, enfin, vos questions m'ont beaucoup, beaucoup touché. Donc, et j'ai parlé beaucoup du Grain de Beauté depuis sa sortie et je n'ai jamais parlé du Grain de Beauté avec ces questions. Merci beaucoup pour votre approche.
Merci à vous. Je rappelle que vous serez demain à la Maison de la Presse de Nevers, place Maurice Ravel, pour une rencontre autour de ce livre paru aux éditions Philippe Ray. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau CDLP, toujours au plus près de celles et ceux qui font l'actualité dans la Nièvre. Restez avec nous sur Bac FM pour le retour de la musique pop, rock et surtout métal. C'est parti!